Radio Okapi. Grande interview. Avec le même plaisir, pour le même devoir, grande interview, on reçoit pour vous aujourd'hui Didier Materania Akili. Il est activiste de droits de l'homme, auteur de l'ouvrage intitulé « Démocratie parlementaire ou escroquerie du souverain primaire en RDC ». Il a été assistant parlementaire pendant 10 ans. Avec lui, dans notre entretien, il nous parlera de son expérience au sein de l'Assemblée nationale en tant qu'assistant parlementaire, mais aussi des motivations qui l'ont poussé à écrire cet ouvrage sur les pratiques au sein de la Chambre basse du Parlement. Merci à Mimi Kindou qui a la mise en onde. La réalisation est assurée par Michel Kifinda. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Monsieur Didier Materania Akili, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes activiste de droits de l'homme, assistant parlementaire de la législature de 2011 à 2016, coordonnateur de plusieurs réseaux, entre autres la dynamique des contrôles citoyens, des activités des représentants du peuple en République démocratique du Congo, mais aussi et surtout auteur de l'ouvrage « Démocratie parlementaire ou escroquerie du souverain primaire en RDC ». La première question qu'on a envie de vous poser, pourquoi ce titre « Démocratie parlementaire ou escroquerie du souverain primaire en RDC »
Merci madame pour la question. La démocratie parlementaire ou arnaque du souverain primaire ou escroquerie du souverain primaire. Madame, le sujet ou le titre de l'ouvrage semble être un peu sensible pour certains, surtout les représentants du peuple.
Exactement.
Mais aussi, nous pouvons dire que ça tombe à point nommé parce que c'est ça l'assentiment de la population, c'est ça ce que nous lisons. Quand nous parlons avec la base, quand nous allons en vacances parlementaires.
Vous avez sondé la population.
Effectivement, si nous avons choisi ce titre, c'est parce que c'est ça l'assentiment de la population. C'est ce qu'ils ressentent dans les chefs de leurs représentants. Mais aussi, il faut se poser aussi la question de savoir, est-ce que c'est le souverain primaire qui est escroqué ou aussi les représentants sont escroqués par le système démocratique en RDC.
Alors c'est vous qui allez nous dire si c'est le peuple ou ce sont les représentants qui sont escroqués parce que vous avez été assistant parlementaire pendant 10 ans à l'Assemblée nationale, donc vous connaissez très bien les rouages, tout ce qui se passe au sein de l'hémicycle. Alors dites-nous qui est escroqué, la population ou les représentants?
Merci beaucoup. Je vais aimer que la population congolaise, surtout les jeunes étudiants et les nouveaux élus, que j'appelle dans le livre les néophytes parlementaires, de s'approprier ce livre pour comprendre réellement que non seulement au niveau de la population, on se sent escroqué, mais aussi quand vous lisez, même les anciens députés qui ne le sont plus aujourd'hui, et s'ils peuvent vous dire la vérité, ils vont vous dire que eux aussi, le système parlementaire congolais leur a escroqué. Et donc, l'escroquerie est dans le système parlementaire lui-même, mais aussi au niveau des représentants du peuple, si on peut le dire comme ça. Parce que c'est ça l'assentiment de la population. Et nous ne pouvons pas nous dire que nous avons satisfait cette population pour dire que ce n'est pas l'escroquerie. Parce que quand vous pouvez, j'aime le terme arnaquer, ou arnaque. Pourquoi? Parce que ça montre que vous avez usé d'une ruse pour avoir le pouvoir du peuple et quand vous l'avez utilisé, vous n'avez plus pensé à cette population. Il y a beaucoup, madame, à dire dans ce livre. Et ça va intéresser beaucoup de lecteurs.
Alors donc ce livre, c'est une forme de décryptage du fonctionnement du Parlement congolais et de l'Assemblée nationale en particulier.
Oui.
Une sorte de caméra cachée, disons.
Effectivement. Nous, comme assistants parlementaires, nous avons été au cœur de l'actualité, nous avons été au cœur des faits et des événements et de toutes les situations comme observateurs évidemment intéressés. Et c'est dans ce cadre-là, avec ces casquettes-là, ça nous a permis d'accéder à beaucoup d'informations que le public ne peut pas y accéder. Ça nous a permis aussi, effectivement, de comprendre le comportement des élus, de comprendre aussi ce qu'ils vivent comme réalité au niveau du Parlement. Et donc, ne vous en faites pas, beaucoup d'élus vont vous dire aussi qu'ils ont été escroqués par rapport à ce qu'ils ont vécu à l'Assemblée nationale.
Dans ce livre, vous expliquez un peu comment les députés, pourquoi les députés ne répondent pas aux attentes très souvent et promesses faites lors des campagnes électorales.
Oui, madame. Il y a une sorte de déconnexion entre le représentant du peuple et la base ou la population souveraine. Nous savons qu'il y a beaucoup de facteurs. Quand vous allez lire les livres, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent et qui mettent les députés en difficulté de répondre effectivement aux attentes de la population. Et la population qui n'est pas bien informée, parce que les députés n'ont pas le courage d'informer de tout ce qu'ils vivent comme méandre au niveau du Parlement.
Quels sont ces facteurs, par exemple, pour ceux qui n'ont pas encore, qui se sont pas encore procurés l'ouvrage?
Merci beaucoup, madame, pour la question. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a des facteurs liés seulement aux instruments, au règlement intérieur et à la constitution en soi, qui ne permet pas aux députés de s'exprimer, parce que nous tous nous savons que les parlementaires c'est pour parler. Mais est-ce que les parlementaires peuvent venir et prendre la parole parce que ils veulent parler? Il y a une procédure qui des fois ne les permet pas de bien s'exprimer. Il ne peut pas vivre une situation, parce que c'est ça aussi l'attente de la population. Quand il y a une situation comme celui de guerre à l'Est, à Beni, on a tué les gens, il y a la population qui va vous appeler ou la base qui va vous appeler pour vous dire « Nous voulons qu'aujourd'hui vous puissiez parler de cette question. Nous savons qu'il y a séance plénière aujourd'hui. Nous aimerions vous attendre sur cette question. » C'est ça ce que la base attend. Ils veulent voir leurs députés parler du problème réel qu'ils sont en train de vivre. Mais malheureusement, des cas pareils pouvaient arriver. Il y a une procédure à suivre. Ça peut prendre même beaucoup de temps. Et ça dépend aussi de la volonté du bureau pour que votre question soit programmée. Et cela amène la population à ne pas comprendre que ce n'était pas la volonté du député. Le député a voulu le faire. Mais voilà, le système lui-même ne me permet pas de parler directement de telle ou autre question. Nous pouvons aussi parler de la question épineuse de contrôle parlementaire, où on attend que le député puisse contrôler le gouvernement, les membres du gouvernement ou les mandataires publics. Mais malheureusement, là aussi, qu'est-ce que nous avons vu pendant toute cette législature? Il y a eu des manœuvres qui empêchaient régulièrement à ce que la population, qui attend aussi une sanction envers tel ou tel membre du gouvernement, il y a toujours de ces moyens utilisés surtout par les bureaux. Là, vraiment, nous le savons comment ça se passe. Et j'en ai épinglé au moins 8. Je m'excuse de les citer. Donc, je suis parti dans les placards du Parlement pour essayer de comprendre pourquoi les motions n'ont jamais abouti. Il y a 8 facteurs que j'ai pu épingler qui empêchent le contrôle parlementaire. Il y a d'abord la solidarité et la stabilité de la majorité présidentielle. C'est un facteur important, très clé, qui empêche souvent...
On ne sacrifie pas un de notre.
Effectivement. Il y a ce qu'on appelle de l'emprise du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale a l'emprise sur tous les députés, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Et cette emprise, si on peut décortiquer cela, vous allez voir que il y a beaucoup de choses qui interviennent et que vous-même, journaliste ici, même si vous aimez le Parlement, vous y allez souvent, vous allez comprendre que vous ne savez pas cette réalité. Il y a aussi ce qu'on appelle la dette morale.
Vous parlez de quoi? Il y a de l'argent qui circule pour ne pas faire aboutir des motions?
Ce n'est pas seulement l'argent, il y a aussi les avantages. Vous comprenez? Chaque député a un cahier de charges énorme. Il a beaucoup de demandes, de sollicitations, de part et d'autre, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, il a ses demandes. Et c'est lui qui peut l'aider à répondre favorablement à ses demandes de la base, que ce soit de la base ou de sa famille politique ou de sa famille biologique. C'est encore le président de l'Assemblée nationale. Alors, et donc, il a l'emprise sur tout le monde. Donc, si à un moment donné, vous êtes en difficulté avec le président de l'Assemblée nationale, sachez bien que vous aurez aussi des difficultés pour votre mandat parlementaire.
Alors là, nous sommes vraiment dans les coulisses du Parlement.
Hein. Effectivement. Alors, il y a aussi, comme il y en a 8, il y a la dette morale des élus. Ils peuvent avoir la dette morale des membres du gouvernement qui l'avaient rendu un service, ou de mandataires, ou encore du président de l'Assemblée nationale qui ne veut pas de cette motion. Et il y a aussi le respect du mot d'ordre de l'autorité morale. Il y a la diabolisation des signataires de la motion. Il y a un système de diabolisation qu'on met en place si on ne veut pas que cette motion puisse passer ou cette question puisse passer. Il y a ce qu'on appelle les zombos le soir. J'ai voulu que même celui qui n'a pas fait l'université puisse comprendre réellement ce qui se passe. Et c'est comme ça que j'utilise même les termes de la rue pour essayer de faire comprendre les gens ce qui se passe au Parlement. Donc c'est un livre qui est ouvert à tout le monde et tout le monde peut comprendre réellement ce qui se passe.
On peut dire que les députés ne sont pas libres de leurs actions, libres de pouvoir dire ce qu'ils pensent lorsqu'on suit tout ce que vous venez d'énumérer là.
C'est ce que j'ai parlé dans l'introduction.
Ça, c'est une expérience que vous-même, vous avez vécue.
Il y a beaucoup de frustration au sein du Parlement, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, de toute nature. Imaginez-vous un député qui termine toute une session ou des sessions sans avoir pris la parole. Comment il va se sentir? Est-ce qu'il ne voulait pas
parler? Est-ce que c'est parce qu'on lui interdit de prendre la parole ou c'est parce que lui-même ne veut pas s'exprimer?
Il y a les matières importantes à l'Assemblée nationale, pour lesquels chaque député a l'envie de parler. Parce que à ce moment-là, la population sent qu'il a parlé d'un problème réel que nous vivons sur terre.
Certains n'ont peut-être pas le courage de parler devant 500 députés. Ils préfèrent se taire et parler à travers les médias.
Non, madame, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un député qui n'aime pas prendre le micro, surtout devant les pêcheurs. Une séance en public, donc, qui est en direct, où sa base peut l'écouter aussi pour la première fois, je ne crois pas qu'il y ait un député qui puisse refuser cette occasion. Mais il s'est fait que, comme je l'ai dit, il n'est pas souvent libre. Parce que le système lui-même vous intercale pour parler. Imaginez-vous, vous êtes d'un groupe parlementaire. Vous êtes au nombre de 35, par exemple. On vous donne ne fût-ce que 15 ou 20 minutes, parce que c'est réparti au niveau de ce qu'on appelle la conférence du président. C'est là où on répartit les minutes en ce qui concerne les questions très importantes comme le projet de loi de finances ou le programme du gouvernement. À ce moment-là, on vous donne seulement 15 ou 20 minutes. Vous êtes à 30 ou à 45. Combien vont parler pour se répartir ces minutes-là? C'est à ce moment-là qu'on voit maintenant l'influence du président de votre groupe parlementaire. Si vous n'êtes pas de son obédience, vous comprenez que il y a beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas de son obédience, vous n'allez pas prendre la parole. Il va aligner les gens tels qu'il l'attend. Comme si ce sont ses amis de sa ceinture qui parlent, qui ont la même philosophie, ils peuvent leur donner la parole. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va parler. Ils sont déjà à 45 et on vous a donné 15 minutes ou 20 minutes. Vous allez parler une minute ou vous allez parler deux minutes. Ce qui fait qu'il y a aussi un clientélisme au niveau du groupe parlementaire. Vous faites ami de votre président parlementaire pour que vous puissiez espérer un jour trouver la parole. Vous pouvez me terminer toute une session parlementaire sans avoir eu la parole, surtout pour des questions essentielles.
L'invité de grande interview aujourd'hui s'appelle Didier Materania Akili. Il est activiste de droits de l'homme et auteur de l'ouvrage intitulé « Démocratie parlementaire ou escroquerie du souverain primaire en RDC ». Il a été assistant parlementaire pendant 10 ans. 10 ans comme assistant parlementaire à l'Assemblée nationale de la RDC. Est-ce que cette expérience que vous avez vécue au sein de l'hémicycle vous a déçu? Lorsque on lit votre ouvrage, c'est beaucoup plus des critiques sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale.
Avant d'être assistant parlementaire, nous sommes aussi scientifiques. Et donc, nous aussi, nous devons apporter notre pierre à l'édifice. Nous disons que nous avons une jeune démocratie. Et cette jeune démocratie doit évoluer. Nous ne voulons pas que ça évolue comme des copier-coller, comme dans une méthode de cathédra, comme on le dit, où les autres, vous allez arriver, vous prenez le même procédé, vous arrivez au même blocage, vous arrivez au même résultat. Non. Comme nous sommes encore une jeune démocratie, chaque peuple peut organiser sa démocratie telle qu'il attend. Et donc, il y a moyen de changer certaines choses par rapport à nos us et coutumes. Nous sommes Africains, nous savons que la parole est l'art, n'est-ce pas? Et nous savons que nous sommes toujours dans le système d'arbre à palabre. Donc, à tout moment, il y a des choses que nous devons discuter. Donner plus la parole aux députés pour qu'ils puissent s'exprimer. C'est ainsi aussi que nous avons voulu, par ce livre, susciter dans les chefs de Congolais qu'il ne suffit pas d'aller voter. Parce que beaucoup se disent aujourd'hui que nous n'allons plus aller voter parce que nous avons été déçus deux fois. Évidemment, et vous l'avez constaté, que pendant cette législature qui est en cours, ce sont des jeunes qui n'avaient pas encore voté qui sont plus allés voter. Et d'autres, impressionnés par la machine à voter, qui sont allés voter. Mais la plupart qui ont vécu l'expérience 2006 et 2011 se sont dit dessus, ils laissent. Et pourtant, en ne pas voter ou en s'abstenant de voter, vous avez toujours fait un choix. Mais cette fois-ci, c'est un choix que vous avez fait contre vous-même. Parce qu'il y aura quelqu'un qui va être élu, même avec moins de voix, même avec un taux trop bas de participation. Mais il va vous représenter comme votre élu, alors que vous ne l'avez jamais élu, vous ne l'avez jamais porté au cœur. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'au lieu de se décourager d'aller voter, nous devons plutôt redynamiser notre système de participation politique. Ce n'est plus la question qui voter, comment voter, où aller voter. Quel profil pour un candidat? Ça, nous l'avons déjà fait. C'est ainsi que nous voulons maintenant notre participation. Ce n'est plus le profil des candidats, mais plutôt de pousser les députés à la redevabilité. C'est-à-dire amener la population à suivre de près les activités des parlementaires. C'est comme ça que nous avons la DICAP, donc dynamique de contrôle citoyen des activités des représentants du peuple en RDC. C'est effectivement pour amener la population.
Vous sensibilisez les électeurs à pouvoir suivre de près ce qui se passe à l'Assemblée nationale, suivre ce que leurs élus font.
Effectivement, madame. Et donc, et pour pallier à cette difficulté, que prouvent beaucoup d'électeurs ou dans beaucoup de bases, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont plus. Je vous ai parlé de la déconnexion entre les députés et leurs élus,
et leurs électeurs.
Maintenant, pour essayer de pallier à cette difficulté, nous avons voulu pousser les députés, les amener, ne fût-ce qu'au sens de redevabilité. C'est ainsi que nous voulons, avec ça, avec la dynamique, contrôler les députés de ce qu'ils font comme activité parlementaire. Tout ce qu'on fait dans les vacances parlementaires, où vous voyez les députés ne partent pas en vacances parlementaires, ça nous devons dénoncer. Et quand nous les dénonçons, nous faisons des rapports. Et la population, ça peut maintenant comprendre que tel député pendant cette période n'a rien fait.
Mais vous mettez les députés en danger là.
Non, on ne met pas les députés en difficulté, mais plutôt nous venons les seconder dans son travail. Je vous ai parlé des frustrations que vivent aussi les députés au niveau de l'Assemblée nationale.
Oui, mais lorsque par exemple vous faites un rapport pour dire tel député n'a pas fait ceci tel que promis lors de la campagne, c'est aussi un peu les exposer.
C'est aussi moraliser la vie politique en RDC. Vous savez que le président lui-même prône le changement de mentalité. Nous voulons que ces changements arrivent. Et ça doit arriver, ça va commencer au niveau du sommet. Le député n'est pas n'importe qui, il porte tout un mandat d'un peuple. Et vous savez comment les députés ont du mal à se faire élire. Ce que nous voulons accompagner aussi les députés dans leur travail, qu'ils font, qu'ils doivent faire ou qu'ils font. C'est que nous fustigeons pour le système, pour le texte qui nous régisse. Cela peut amener les députés, parce qu'il y a aussi le système de co-gestion, madame, qui se voit maintenant dans beaucoup de pays. Le contrôle citoyen, c'est pour accompagner les vrais députés qui veulent travailler pour la population, pour que son action aussi puisse aboutir. Parce que si on les bloque au niveau du bureau, il vient avec une proposition de loi qui intéresserait la population congolaise. Qui intéresserait la population congolaise. Et que il a toute une masse, tout Tchango par exemple, qui l'accompagne pour que cette question soit débattue à l'Assemblée nationale. Vous voyez que ces députés, nous, la base ou la population l'aura aidé. Que de la population qui ne sait pas et qui ne s'intéresse pas aux questions que leurs députés font. Il y a beaucoup de députés qui ont de bonnes idées et qui veulent faire voir les choses évoluer et qui sont bloqués. Alors la dynamique peut aussi aider ce genre de députés, mais aussi ramener certains députés, évidemment, que nous connaissons, qui ne font absolument rien, qui ont affairistes, ne vous en faites pas, dans les livres, j'en ai parlé, il y a des catégorisations de députés, il y a les affairistes, il y a les néophytes, il y a les vétérans, et il y a les professionnalisés. Ce sont là les quatre catégories de députés à l'Assemblée nationale. Nous voulons
alors amener... Pour tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment, si vous voulez en savoir plus, procurez-vous cet ouvrage « Démocratie parlementaire ou escroquerie du souverain primaire en RDC ». Un livre très intéressant où on vous parle vraiment des coulisses de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Un ouvrage publié par Didier Materanya Kili, qui a été pendant 10 ans assistant parlementaire. Donc, il nous fait découvrir un peu tout ce qu'il a vécu au sein de l'Assemblée nationale. Alors, Didier Materanya Kili, par rapport à tout ce que vous avez vécu, vous proposez qu'il y ait des réformes au niveau de l'Assemblée nationale.
Oui, nous voulons que nous puissions revoir le plus vite possible notre système démocratique, qui ne doit pas être une copie collée d'un système occidental et qui a montré ses limites. Il y a moyen de créer un cadre pour permettre à chaque élu de donner la situation de sa base. Nous voulons qu'il y ait des réformes. Évidemment, il y a eu aussi un progrès, je ne peux pas l'oublier, il y a eu un progrès sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, parce qu'on a empêché maintenant que les motions incidentielles puissent empêcher la question principale. Ça, c'est un progrès, mais ça n'empêche pas les 8 facteurs de blocage des contrôles parlementaires que j'ai évoqués, qui continuent d'ailleurs. La réforme que nous voulons au niveau de l'Assemblée nationale, c'est d'abord au niveau des textes. Il y a un problème que j'ai évoqué, le débauchage des élus. Nous sommes arrivés vers la fin. Nous sommes arrivés vers la fin de la législature. Vous avez vu que si vous avez eu à passer là-bas, il n'y avait plus de députés à l'Assemblée nationale qui participaient réellement à une plénière quelconque. Vous allez voir qu'il y a moins de députés. Et nous avons essayé de faire les statistiques, combien de fois on a annulé une plénière qui était déjà programmée, tout simplement parce que le quorum n'était pas atteint. Nous avons fait ces statistiques, ça montre que le désintéressement était déjà au sein du Parlement. Mais dans notre temps, c'est le facteur de débauchage. On a beaucoup débauché jusqu'à ce que ce sont les suppléants et même les deuxièmes suppléants qui étaient maintenant à l'Assemblée nationale, et ça ne donnait plus goût de suivre les questions parlementaires.
Alors ça, c'est une et expérience donc, de 2011 à 2016, peut-être.
Oui, même avec le prolongement qu'on
a jusqu'à 2018, en tout cas. Aujourd'hui, avec la nouvelle législature, les choses sont différentes de ce que vous avez vécu.
Madame, je vous ai dit que j'étais assistant parlementaire depuis 2011 jusqu'en 2019. Aujourd'hui, où nous sommes en train de parler, c'est, il n'y a que quelques temps seulement qui sont passés que je ne suis plus assisté parce que mon député a été invalidé injustement d'ailleurs. C'est une passion pour moi, l'Assemblée nationale.
Votre souhait, Didier Materanya, est de voir les choses changer positivement, que cette Assemblée puisse abandonner les mauvaises pratiques.
Nous voulons aussi, dans les faits, parce que je ne dis pas qu'il y a un grand changement qu'on est en train de constater aujourd'hui, parce que c'est presque le même système qui continue. Et d'ailleurs, beaucoup de députés vous le disent, c'est là de cette législature, que vraiment nous ne savons pas si nous allons faire mieux que les autres qui sont partis. Parce que tout simplement, il y a ce texte qui met en difficulté certains députés de parler, mais qui aide aussi les bureaux de se cacher derrière les textes pour dire que non, voilà la procédure, voilà ce qui est prévu. Je ne peux pas agir autrement. Alors qu'il profite de cette faiblesse-là pour que les paroles ne se donnent pas correctement ou le contrôle ne se fait pas. Parce que le député est élu pour trois choses. C'est d'abord légiférer, donc voter les lois, représenter la nation, contrôler l'exécutif. Alors, le plus important, ce ne sont pas des lois parce que nous en avons assez. On vote souvent des lois.
Le plus important, c'est quoi, Didier
Le Materania? Plus important, c'est la pratique de ces lois qu'on a toujours votées, qui consacrent un modèle de gestion du pays. Et quand on ne suit pas ce modèle, il faut sanctionner. La sanction doit venir de l'Assemblée nationale, principalement. Parce que le Sénat, je n'en parle pas assez, parce que notre système démocratique, c'est l'Assemblée nationale qui est la mère de tout en termes de gestion du gouvernement comme un organe exécutif. Donc nous voulons absolument que non seulement il y ait modification par rapport à nos us et coutumes, modification de réforme de notre démocratie en général, qui ne soit plus le copier-coller, que même un dictateur peut profiter de ça pour se cacher, mais plutôt que ça soit une démocratie vivante, que même la population, même les bas peuples sentent réellement dans eux que vraiment ils sont bien représentés et que leurs élus font le travail pour lequel ils les ont envoyés là-bas.
Merci Didier Materania. C'était un plaisir de vous recevoir dans Grande Interview pour nous parler de votre ouvrage Démocratie parlementaire ou escroquerie du souverain primaire en RDC. Alors comment s'est procuré votre ouvrage Didier Materania?
Et merci beaucoup. En fait, l'ouvrage est sorti aux éditions Harmattan, Paris. Le livre est attendu à Kinshasa pour le vernissage. Et donc, on peut me contacter pour avoir l'ouvrage.
À quel numéro?
Au numéro 09 97 57 78 48. J'ai dit 09 97 57 78 48. Mais aussi, c'est un ouvrage qui est en ligne. Ceux qui veulent ne fût-ce que lire en ligne, ils peuvent aussi entrer dans le site d'Harmattan Paris pour qu'ils puissent s'en procurer facilement s'ils ont les moyens de le faire en ligne en fait.
Merci Didier Materania, c'est la fin des grandes interviews. Merci à Mimi Kindou qui était à la prise de son. Au micro, Kéline Kouté, la réalisation a été assurée par Michel Kifinda. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.